Frères et sœurs, soyez les bienvenus. Levons la tête, ouvrons les yeux, accueillons ce jour, accueillons-le ce jour, accueillons-le comme il nous accueille. Nous le considérons comme un jour neuf, un jour qui n'a jamais existé, un jour qui n'existera jamais plus. Prenez donc ce jour, faites-en une échelle pour accéder à de hauts sommets. Ne permettez pas que la tombée du jour vous laisse semblable à ce que vous étiez à l'aube. Ce jour, ce simple jour, est un don de Dieu, comme tous les jours. Mais aujourd'hui, nous le signifions. Rien n'est fortuit, rien n'est ordinaire, rien ne va de soi. Ce jour, avec Dieu, nous est offert. Prenons-le entre nos mains, prenons-en soin et avec ferveur. Mais avant toute chose, frères et sœurs, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. La grâce et la paix nous sont données en Dieu notre Père. Amen. Nous nous réunissons dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret inséré au début du psautier. Des mots de Gandhi peuvent devenir ce matin notre louange, tandis qu'autour de moi tout change et tout meurt, je perçois vaguement, sous ces apparences changeantes, une force de vie qui demeure immuable et soutient tous les êtres. Cette force est-elle bienveillante, malveillante ? Pour moi, cela ne fait aucun doute. Elle est foncièrement bienveillante, car la vie persiste au cœur même de la mort. La vérité rayonne en dépit du mensonge qui l'entoure, et la lumière resplendit dans les ténèbres. J'en déduis que Dieu est vie, vérité et lumière, qu'il est amour. Je vous invite à prendre le psaume 25 pour y chanter les strophes numéro 1, 2, 3 et 4.
So
Écoutons ensemble ce que l'apôtre Paul propose de chercher à vivre. Il nous dit « Voici la voie par excellence ». L'amour prend patience, l'amour rend service, il ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne meurt jamais. Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Nous nous présentons devant Dieu. Seigneur, nous sommes aveugles et devant toi, nous le disons. Nos fausses vertus nous montent à la tête. La colère, la rancune, le jugement nous submergent. Nous voyons mal. Seigneur, délivre-nous. Nous voyons mal quand nous perdons l'espérance, quand nous perdons la certitude de ta victoire. Nous voyons mal, nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Amen. Mais Dieu renouvelle pour nous sa grâce et nous disons qu'il dit dans la Bible, même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Car je t'aime d'un amour éternel. Et il dit aussi, et nous disons qu'il dit dans la Bible, je te consolerai comme une mère console son enfant. L'Éternel en Christ se penche vers nous et nous dit, mon enfant, Tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. Amen. Partageons maintenant une confession de foi possible, une profession de foi, va-t-on dire, celle du psalmiste, des mots qui nous sont familiers dans le psaume 23. Je laisserai du silence entre les mots, entre les phrases, pour que dans ce texte court, vous puissiez vous aussi exprimer quelque chose en vous-même. Le Seigneur est mon berger. Rien ne manque. En lui, j'ai mon repos et ma justice, puisqu'il m'aime. Même au fort de l'obscurité, je ne crains rien. Le Seigneur se tient près de moi et me console. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Le texte biblique que je vous propose et qui vous est proposé aujourd'hui est tiré de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 13 et nous lirons les versets 8 à 10. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Je nous invite à chanter au cantique 309, les strophes numéro 1, 2 et 3. Ô Dieu notre Père, donne-nous ton souffle pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, pour que nous sachions que faire quand notre avenir est incertain. Donne-nous ton esprit pour que nous nous mettions en chemin pour construire ton royaume. Nous te cherchions dans la méditation de cette écriture ancienne. Nous te cherchons dans la méditation de cette parole. Rends-nous attentifs à la nouveauté de ta parole. Amen. Dans un premier temps, frères et sœurs, je vais vous présenter cette lettre de Paul à l'Église de Rome. Mais je vais la présenter sous un angle, on va dire, légèrement particulier. En fait, en insistant sur Rome. Ce qui permettra, dans un second temps, de saisir le potentiel des quelques mots qui viennent d'être lus. Une lettre pour changer de monde. Cette église ou assemblée de Rome, sans doute éparpillée dans des maisons, dans la ville, cette église est composée de gens venus du paganisme et aussi de juifs réguliers. Les deux groupes semblaient avoir du mal à s'entendre, c'est bien connu. Et pour les concilier, Paul va employer les grands moyens. Il va, rien que ça, inventer l'humanité. Voilà ce qu'il va faire. Mais pour ce faire, il va questionner nombre de valeurs du monde dans lequel il vit et il va les regarder en face et il va les retourner. Par exemple, il inaugure sa lettre en se présentant lui-même comme un esclave. Paul, pourtant, bénéficie du droit de cité, il est donc un citoyen romain et il est un homme libre. D'emblée, donc, au début de sa lettre, on découvre chez Paul un talent politique hors pair. D'emblée, il jette un trouble sur les valeurs du monde dans lequel il exprime son évangile. En effet, comment un esclave peut-il s'autoriser à parler ? Déjà, évidemment, il écrit ailleurs et cette phrase est dans nos têtes, déjà, il n'y a plus d'esclave ni d'homme libre. Paul pressent peut-être que ses croyants au Christ à Rome seront le ferment du changement de monde qui, selon lui, est en train d'arriver. Ce nouveau monde souffre encore des douleurs de l'enfantement, dira-t-il au chapitre 8 de la même lettre. Mais il arrive. Le secrétaire de cette lettre l'avait écrite sur un parchemin double face pendant le troisième voyage missionnaire de Paul. Le porteur de cette lettre était probablement un esclave requis pour cette tâche. Du moins à l'arrivée, car cette lettre est partie de Corinthe. Cette lettre a pris donc la mer, elle a pris la route, et finalement elle est arrivée à Rome. Et ce matin, je pense à ce messager final. Je pense à cet esclave qui a changé le monde. Et juste maintenant, je lui rends hommage dans cette prédication, à cet esclave anonyme, inconnu. Alors, on l'oublie souvent dans les commentaires, et c'est surprenant, que cette lettre est envoyée en plein cœur de l'Empire, c'est-à-dire qu'elle est une sorte de flèche qui cible le cœur. Nous sommes aux environs de l'an 58, Néron est encore un bon administrateur, il semble encore sous l'influence de Sénèque, qu'il a éduqué, avec un succès provisoire. Le Colisée n'a pas encore été construit, mais les combats de gladiateurs ont beaucoup de succès. Selon le bon vouloir de la foule et de l'empereur, on y épargne ou on n'y épargne pas les vaincus. Les prisonniers de guerre, eux, ou les condamnés à mort, sont massacrés durant les entr'actes. Des gladiateurs font office de bourreaux à ce moment-là. Et dans ce cas, aucune grâce pour personne. Tous ceux qui vivaient à Rome savaient ce qu'était la grâce, ou plutôt ne savaient pas encore qu'elle pouvait être autre chose qu'un élément de la mise en scène de la comédie du pouvoir, ou mieux, du spectacle du pouvoir. Rome, donc, a l'art de cumuler les choses, l'endroit le plus riche, le plus corrompu, le plus administré et le plus violent de la planète et des humains de cette époque. Humains qui, rappelons-le, n'étaient qu'environ 150 millions, et c'est toujours un plaisir de le rappeler, pour nous changer la tête. Et à Rome vivaient 1 million d'habitants, dans leur ville monde. Les Romains se voyaient comme s'ils étaient l'humanité, mais dans un sens précis, parce que pour eux, humain, cela voulait dire éduqué. En fait, cela voulait dire sorti de la sauvagerie. Ils étaient érudits, c'est-à-dire qu'ils étaient débarrassés de ce qui en eux, croyaient-ils, était rude. Mais cependant, et simultanément, et ailleurs, sur cette planète qui s'ignorait comme planète, il y avait d'autres gens. Des sauvages, donc. Des rudes. Des membres de cultures inconnues de ces humains. Ils vivaient, cela, une vie forcément différente. Ils ne connaissaient ni d'Ève, ni d'Adam. Des gens qui seront morts sans avoir connu la Bible, ni la Torah, ni Jésus, ni même le César, sans connaître Rome, ni Paul, ni a fortiori l'Église à laquelle il est écrit. Pourtant, Paul, sans le savoir, est en train, par cette lettre et par d'autres lettres, d'inventer leur humanité, par un écrit. À vue d'œil, c'est encore un de ces écrits superstitieux, fabriqué par une de ces religions orientales qui envahissaient peu à peu les mentalités dans ces endroits-là et à cette époque-là. Ça, c'est à vue d'œil, mais à vue historique, c'est le prélude d'un grand cataclysme. Rome ne sait pas encore que ce parchemin qui est arrivé jusqu'aux oreilles de cette assemblée, mais aussi de plein d'autres assemblées, va contribuer, et ça prendra du temps, contribuer à bouleverser cet empire. Rendons-nous compte, Rome, le centre du monde, certes, mais aussi l'endroit où a été inventé le droit. Et voilà que ce juif lettré, Paul, dans un bel élan téméraire, fait passer une lettre qui va mettre au premier plan la justice plutôt que le droit, qui va dire que l'amour est au-dessus de la loi, qui va mettre la grâce par-dessus la condamnation, qui va suggérer que le fameux droit de cité n'est pas réservé, puisqu'il y a désormais une autre cité. Elle arrive, elle est déjà là, c'est le règne de Dieu, et tout le monde y a droit. Certes, ce pharisien qui est Paul, même s'il a, et c'est le moins qu'on puisse dire, des rapports complexes avec la loi de son peuple, la Torah, ce juif-là, en tous les cas, n'a aucune intention apparente d'aller vent debout contester le droit de Rome et surtout ses vigiles policiers et surtout sa garde prétorienne. En témoigne le début du chapitre 13 que je vous invite chez vous à lire au début pour voir comment procède Paul dans sa pensée. Il assomme ses lecteurs avec sur le devoir de se soumettre aux autorités supérieures, de se soumettre aux magistrats de se soumettre aux lois, de se soumettre, bref. Et comment dire, les débats de nos églises futures, enfin futures par rapport à cette époque, se sont beaucoup demandé s'il fallait ou non se soumettre aux autorités, alors que dans ce texte, il s'agit d'une simple recommandation de prudence. Les Juifs de Rome sont déjà mis au ban par les autorités, et ces fameuses autorités ne font pas de distinction entre ceux qui croient à leur Christus et l'autre et ceux qui n'y croient pas. Mais cette lettre, surtout, elle va dire à ces croyants, qui peuvent être des citoyens romains, mais qui peuvent aussi être des étrangers ou des esclaves, qu'il y a une autorité supérieure aux autorités supérieures. Et cette autorité, c'est encore la Torah, mais pas celle qui édicte des normes comme le fait le droit romain. Mais c'est la Torah dans son intention initiale, l'intention de la justice. Il va leur dire à ces juifs ou à ces païens d'origine, à ces craignants Dieu ou à ces prosélytes qui ont fait de Jésus leur Messie, que la Torah elle-même est dépassée par sa propre intention initiale, la justice de Dieu, la grâce de Dieu, qui s'offre à tous et pas qu'aux vainqueurs, qui s'offre à tous. Elle n'est plus cette grâce, cette justice, le monopole d'un empereur. Il va leur dire que même le plus strict respect de n'importe quelle loi n'apportera jamais le salut, ce salut qu'on reconnaît par la foi, et la foi, c'est l'exultation de se sentir enfin justifié, et même, on pourrait dire, de se sentir enfin affranchi. Même si, de fait, on est encore un esclave, et même si on n'est pas un esclave, et si on est encore, de fait, un esclave, on est un esclave qui a changé volontairement et discrètement de maître. Rome ne sait pas encore, mais l'esprit de cette lettre fera craquer tout cet allant de soi, cette auto-évidence qui est le propre de toute civilisation arrogante qui ne sait pas que sa force ne repose en fait que sur l'assentiment des foules, et ces foules un jour seront convaincues qu'il y a mieux que le pain, mieux que les jeux, mieux que la contemplation des chutes successives des empereurs et de leurs clans, des gens de plus en plus nombreux, ici à Rome, mais aussi là, partout dans l'Empire, vont se saisir de cette nouvelle espérance, cette espérance d'un monde qui va bien au-delà de la vision du César. César à qui on peut bien rendre ce qu'on lui doit, ce n'est pas important. Ce qui est important, en revanche, c'est de rendre au Seigneur, par la louange, par la reconnaissance, ce qu'on lui doit à lui. Reconnaissance de s'être trouvé justifié au-delà de la condamnation. Et puis, un élément important qu'on oublie souvent, alors que c'est souvent évoqué dans les évangiles, contrairement à l'empereur, le Dieu de Paul ne prélève pas d'impôts. Le croyant à ce nouveau Yahvé qui a pris la figure du Christ pour Paul, ce croyant-là n'est pas imposable. Il n'a plus de dette. Il est juste affranchi. Continuons un peu. Paul, dans ses lettres, se décrit comme un athlète. Et cette autodésignation a fait beaucoup phosphorer les communicants en christianisme. Le sport, la foi, etc. Courir avec Jésus. Mais bon, on aurait dû se rappeler quand même qu'être athlète à cette époque, c'est surtout mourir souvent. Dans les courses de chars, on mourait. À la boxe, je vous rappelle que les boxeurs de cette époque ont du plomb dans les gants. À la boxe, on mourait. Donc, quand Paul dit qu'il est un athlète, qu'il combat, il dit qu'il n'a pas peur de mourir. C'est ça qu'il dit. Cet esprit de rébellion intime contre une organisation dont de plus en plus de monde va comprendre la tristesse, parce que c'est ça l'Évangile, c'est de regarder le monde et de faire comprendre la part de tristesse qui y réside. Eh bien, cet esprit-là va conduire les croyants en prison, comme Paul, qui y mourra peut-être, va permettre à ces gens-là, par exemple, de refuser l'armée pendant un certain temps, parce qu'ils refusaient d'obéir aux ordres d'une idole qui était l'empereur. Avant, bien sûr, que ces mêmes chrétiens de plus en plus nombreux et acceptés en arrivent à fournir l'élite de l'armée, ce qui renversera le rapport de force. Cette société du droit, de l'armée, de l'impôt, du commerce, de l'esclavage et des jeux ne le sait pas encore, mais elle va se transformer par ce mouvement qui refuse de voir des inégalités entre les humains devant Dieu. Dans le temps mystique de Paul, temps mystique, car pour lui, c'est la fin du temps. Dans ce temps-là, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Par ces quelques mots, Paul change la société romaine en profondeur. Il la décrit, en fait, dans ses séparations. Il change la société romaine et personne ne s'en est aperçu alors. Mais ces gens-là, ces orientaux, ces juifs étranges, dont certains ont des noms civilisés, grecs, latins, ces juifs qui ne sont pas vraiment des juifs ou qui en sont, ces gens-là qui seront accusés plus tard d'exercice illégal de la médecine, des gens qu'on accusera de superstition, qu'on accusera de bêtises et qu'on persécutera pour toutes ces raisons et non pas à cause de leur foi. Ces gens-là étaient simplement des athlètes qui n'avaient pas peur de la mort et qui n'allaient laisser finalement de Rome que des vestiges. Et pourtant, ils avaient l'air bien faibles, comme leur Christ sur la croix. Jusqu'à ce que, bien sûr, l'aspect gracieux de ce message disparaisse, jusqu'à ce qu'après la grâce survienne la disgrâce, les chrétiens prennent le pouvoir, ils se font impérieux, ils se font pontifiants. Mais Paul, ça, il ne le saura pas, il mourra avant. Lui, jusqu'à la fin, il restera incandescent. Il n'y aura pas de disgrâce pour Paul. Mais un jour, bien plus tard, se précipiter au sens chimique de justice, cette éthique particulière de la fin des temps, va déjà permettre d'en finir avec les jeux du stade, avec ces combats sanglants. Et ça, c'est un fait. Va plus tard permettre à l'esclave de se moquer de son maître par des chants de gospel qui vont louer un autre maître, et même un jour, les ondes de ces chants iront briser l'institution même, tellement inscrite, de l'esclavage. Et encore bien plus tard, cet esprit va faire admettre que les femmes sont des êtres humains qui ne sont pas censés accepter d'être harcelées. Faire admettre que le partage est vital et que le pouvoir absolu, même religieux, est un blasphème. Et puis aussi, faire admettre que la terre est un bien commun. Et bien sûr, tout ce que nous non plus ne savons pas encore. Tout ça, en potentiel, ou dans les termes, c'était dans la lettre apportée par cet esclave inconnu et rédigée par un esclave auto-revendiqué pour des gens à Rome qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient là, qui croyaient simplement partager du pain en souvenir d'un défunt et qui attendaient son retour proche. Frères et sœurs, je crois à ce ferment, à ce génie, à cet esprit qui se met parfois en sommeil, mais qui se réveille toujours pour que nous regardions notre monde en face. Et je crois que ce génie, cet esprit, est encore en train de changer ce monde, et en mieux. Ce ferment est condensé dans ces quelques mots très simples qui feront la seconde partie, mais beaucoup plus courte, de cette prédication, des mots parmi lesquels se trouve ceci. Ne devez rien à personne. Imaginons tous les filets dans lesquels nous sommes pris, les filets administratifs, les filets de créances, les filets des sentiments. Contemplons un instant les longs et inextricables filaments de notre redevabilité. Il faudrait inventer une caméra à réalité augmentée pour qu'on puisse visualiser tous ces fils qui font de nous ce qu'on appelle des êtres sociaux et que d'aucuns appelleraient des marionnettes. Tous ces fils, si on pouvait les voir, nous conduiraient à accepter d'en détacher quelques-uns, au moins ceux qui nous entravent vraiment. C'est ce travail de détachement qui est à faire quand on se sent appelé, mais quand, comme dans un rêve, on pourrait se sentir retenu par des fils invisibles. Paul dit à ses amis, « Faites-le, détachez-vous. Ne devez rien à personne. » Cette phrase n'en reste pas là, sinon elle ne serait qu'une invitation à l'irresponsabilité. Cette injonction à ne plus être redevable, c'est-à-dire à ne plus valoriser ce qui n'en vaut pas la peine, est le premier stade. S'il n'est pas accompli, on ne pourra pas recevoir le principe de l'amour des uns pour les autres. Il faut d'abord se débarrasser de toutes ces amours creuses qui ne sont que des chaînes dans lesquelles nous avons cru devoir nous enserrer. Toutes ces chaînes à qui nous rendons de permanents hommages, ce qui brûle les précieuses heures de notre vie, des heures qui deviennent des siècles de patience pour notre humanité. Ne soyez redevables de personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Cette injonction, d'abord destinée à cette Église de Rome, est le condensé de cette éthique du temps court, de ce temps qui nous reste. Amen.
Je vous invite à prendre votre recueil de cantiques
y trouver le numéro 165 et y chanter les strophes numéro 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, cantique 165.
Bonjour à tous, c'est le temps des annonces et tout d'abord grand merci au pasteur Robert Philippoussi d'avoir présidé ce culte et d'avoir porté aujourd'hui la prédication. Vous pourrez échanger avec lui bien sûr à la sortie du culte, mais vous pourrez également partager avec lui des réflexions lors du repas si vous nous rejoignez tout à l'heure, salle Mono, rue de l'Oratoire, pour partager ensemble le repas mensuel. Et Philippe et son épouse seront présents et donc vous pourrez discuter avec eux. Lundi 5 mars, grec biblique pour les progressants avec Aurore Mériot, pardon, à partir de 19h30 jusqu'à 21h. Cette réunion, pour ceux qui suivent les cours de grec, aura lieu salle Roberti. Lundi 5 mars, j'ai aussi le plaisir de vous informer, pour celles et ceux qui depuis quelque temps attendait que le nouveau site de l'oratoire soit fonctionnel, eh bien, lundi matin, donc demain matin, les techniciens et la personne Nicolas Binet qui a refait ce site avec quelques-uns de nos collègues du Conseil presbytéral, et je remercie Laurence Tardy et Jean-Luc Buisson, le nouveau site donc sera fonctionnel. Vous pourrez retrouver le site ouvert, mis à jour. Il comportera bien entendu toutes les informations et les rubriques auxquelles vous avez habituellement accès, mais avec un nouveau format. Et j'espère que vous aurez plaisir à aller naviguer sur le site de l'oratoire. Mardi 6 mars. Le soir à 20h, rendez-vous salle Mono pour les réunions philosophie et théologie. Vous le savez que c'est une réflexion qui est proposée par à la fois Denis Guénoun qui présidera cette soirée. C'est le rapport entre philosophie et théologie qui est animé par Olivier Abel, Philippe Godin, Denis Guénoun et le pasteur Marc Pernaud. Et cette réunion portera sur persévérer sur la frontière, à propos donc de Paul Tillich. C'est Denis Guénoun qui animera cette soirée, donc à 20h mardi. Mercredi 7 mars, grec biblique pour les avancées, c'est Edith Lounès, Salmono, qui animera la réunion à partir de 15h30 jusqu'à 17h30. Jeudi 8 mars, hébreu biblique, c'est l'apprentissage avec Christophe Siemenski qui donc recevra ses élèves à partir de 19h30, salle Verne. Et jeudi 8 mars, également, le cœur de l'oratoire répétera à partir de 19h avec Fabien Aubé et Alexandre Korovitch qui travaillera salle Mono. Alexandre Korovitch que nous remercions d'avoir accompagné aujourd'hui nos chants puisqu'il fait partie du groupe des quatre organistes de l'oratoire. Dimanche 11 mars, le culte sera présidé par Richard Cadou, qui est en congé cette semaine, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Aurélien Peter sera à l'orgue, et je vous redis que c'est, vous le retrouverez là aussi en détail sur le nouveau site de l'oratoire, c'est la reprise de l'éducation biblique pour tous les groupes. L'éveil biblique donc de 4 à 7 ans, l'école biblique de 8 à 11 ans et le catéchisme de 12 à 15 ans. Donc rendez-vous à partir de 10h30 ici au temple et à la maison presbytérale pour les plus petits. Voilà, j'en ai terminé. Donc peut-être une précision, il y avait un concert spirituel le 17 mars, une cantate, mais qui sera malheureusement annulée. Vous le verrez peut-être sur les divers documents qui ont été déjà envoyés, mais 17 mars, la cantate proposée par la Camerata Saint-Louis et Georges Guillard n'aura pas malheureusement lieu. Merci de votre attention, je vous souhaite à tous un bon dimanche et puis c'est maintenant le temps de l'offrande.
Je nous invite au recueillement, à la prière d'intercession. Seigneur de nos vies, ô notre Créateur, nous te rendons grâce pour ta présence sûre qui nous libère de la division. Notre Père, notre commune origine, nous te prions. Nous te prions pour ceux qui sont perdus, ceux qui se sentent perdus, ceux que nous avons perdus. Nous te prions pour ceux qui restent dans leur désert, pour ceux vers qui nous ne voulons pas aller, parce que leurs chemins sont bien trop ardus pour nous. Alors Seigneur, oui, nous te prions pour nous, pour notre témérité, à faire valoir un peu plus. Nous remettons à ton amour en ce temps de la Passion, ceux qui vivent chaque jour sans savoir que tu les aimes. Et puis, Seigneur, nous voulons te prier pour ce qu'on appelle les nations, en tous les cas, ces personnes blessés par les conflits. Alors oui, que ta justice s'accomplisse. Que ce chemin nous mène à la résurrection. Seigneur, regarde notre foi quand elle se met en acte. Permets, Seigneur, que notre volonté et la tienne se conjuguent et pour que ta volonté soit faite. Ensemble, nous te disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est l'apôtre Jean, dans la première lettre de Jean, qui nous le dit, qui nous appelle comme ça, petits enfants. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et puis Paul nous redit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche de chacun, et ne vous inquiétez donc de rien. Nous recevons la bénédiction de la part de notre Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, et Amen.